Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 1er décembre 2007 et il est exactement midi.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
S'invite dans vos oreilles avec, pour commencer,
maintenant,
le supplément week-end avec l'actu BD, ciné, DVD, TV, otaku et autres drôleries.
Et suivi de...
Ça c'est du sport, résultats sportifs en direct des vestiaires, de l'infirmerie, du compte en banque de Canal+, et de la Ligue 1.
Et ensuite...
À 15h c'est du reggae avec Zarma, Farai, Poupa, Christopher, Inda, Place. 17h ça c'est de la bonne viande. 18h Big Bang, 19h Happy Hour. Ben oui, comme on a préparé la viande à 17h. 20h la CTO Experience, 21h39 Love et à 23h le potager. Bonjour Thomas.
Bonjour Xavier.
Bonjour Chris.
Bonjour.
Et oui, nous avons un invité, enfin un chroniqueur exceptionnel qui est là parmi nous pour parler d'un jeu vidéo. D'habitude, on ne parle pas de jeux vidéo dans le supplément week-end.
Pour des... Oui, sauf qu'aujourd'hui, il ne parle pas de jeux vidéo, mais d'un artbook issu d'un jeu vidéo.
C'est tout à fait différent. Okay. Ah bon? Bon, ben je vais changer de conversation par hasard. Oh, bonjour du sport.
Latino-cubains, j'ai le cafard des fanfares, le pamplonne monotone. Petit déjà à l'écart des ambiances bourguignonnes. Quand la joie s'anime et rend les gens heureux, dans le poumon j'ai une épine, moi je reste pas au milieu. Le monoï m'ennuie, ciao le chahut, plus de bras dans la holla. Hi, hi, tiens revoilà le cafard des fanfares. Dans les foires, sa foire, c'est le cafard des fanfares. Faudrait appeler ça cafard des fanfares. C'est encore là le cafard des fanfares. J'ai le cafard des pétards, le 14 juillet discret. Moins soucieux au coin de mon feu que sous ceux des cieux. Loin des guitares électrocentriques. Le 21 juin, j'aime plus la musique. La masse, ma somme me sonne et j'ai peur des klaxons. L'isolement seulement c'est triste mais jamais ne me ment. Le monoï m'ennuie, ciao le chahut, plus de bras dans la holla. Hi, hi, viens revoilà le cafard des fanfares. Dans les foires, sa foire, c'est le cafard des fanfares. Faudrait appeler ça le cafard des fanfares. C'est encore là le cafard des fanfares. J'ai Noël rebelle, le feu de la Saint-Jean chiant. Les lampions guirlandes, c'est mes envies qui pendent. Je suis pâle, je suis mal, sous le soleil, carte postale. Elles sont fades, c'est pas, regarde ce carnaval. Quand les cymbales s'emballent, je suis pas dans les balles. Dans les fanfares, j'ai le cafard. Hi, hi. Tiens, revoilà le cafard des fanfares. Dans les foires, sa foire, c'est le cafard des fanfares. Faudrait appeler ça le cafard des fanfares. C'est encore là le cafard des fanfares. Tiens, revoilà, tiens, revoilà, tiens, revoilà, tiens, revoilà. Tiens, revoilà le cafard des fanfares. Dans les foires, sa foire, c'est le cafard des fanfares. Faudrait appeler ça le cafard des fanfares. C'est encore là le cafard des fanfares. Oh, 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 oh
course, il a le cafard des fanfares, c'est sur la compilation Fer 2008. Bon, Radio Éphémère est partenaire, avec la radio Ferrarock et plein d'autres. Il y a même Yel dedans, et c'est pas une question de parle à ma main. Oui. Non, 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 la chanson est très très belle. Et moi aussi, j'avais des doutes, je me suis dit, oups. C'est vrai qu'à une époque, en 99, il y avait Kyo dans cette compile. Ah non, c'était Kiyu, c'était avec un U, je me trompe. J'ai vérifié ce matin, voilà. Bonjour Thomas.
Et bonjour, rebonjour Xavier.
Rebonjour, bonjour du sport. Non, l'autre micro, le bleu bonjour. On s'en sert pas. Il est contaminé le bleu, il sert à autre chose quoi, voilà. Donc on a parmi nous Chris. Attends bien, bonjour. Comme Chris l'a fait remarquer 20 minutes pendant que je préparais l'émission tranquillement et cool dans la régie.
Mais où est le conducteur?
Ah mince, il est chez moi. Voilà. Je suis un peu hors d'haleine là. Eh ben, on a fait beaucoup de bruit pour la première édition du Toulouse Game Show. Alors, est-ce que ce bruit était justifié?
Putain,
ou non?
J'ai même vu une pub à la télé. Hein.
Eh ben, en fait, c'était chaîne, complètement surfait.
TLT?
Non, pas sur TLT, justement. C'est ça qui m'a étonné.
Ah, sur Game One?
Non, pas sur Game One.
Sur MTV?
Région,
je sais pas, 13ème rue.
Ah oui, quand même, hein.
Ou une autre chaîne de ce genre, je sais pas. Ça m'a paru bizarre, si tu veux.
D'accord.
Donc tout ça pour vous dire que c'était complètement surfait, Thomas et moi on y est allé. En fait, il n'y avait pas de quoi casser trois pattes à un canard, ni de repeindre un otaku en Star Trekies.
Oh, il y avait trois pelés, entendu, non c'est pas vrai, non c'est.
c'était bondé.
La première édition a été victime de son succès puisque il y avait, comme tu l'as dit Chris, 4 personnes au mètre carré qui étaient assez invivables.
5, la limite pompier était de 5, à mon avis ils ont bloqué à l'entrée, c'était pas possible autrement.
C'était assez invivable puisqu'il a fallu être attentif à ce qui se passait sur la scène puisqu'il y avait tout le temps des animations comme des cosplays, concerts de Bernard Minet, des duels de Blade
Thomas s'est fait dédicacer Bernard Minet. Il était sans le matos de reportage, malheureusement.
Oui, j'allais dire. Et Bernard Minet.
Bernard Minet, on a loupé le concert. On a loupé le concert, mais on a pu assister à un concours de blind test où il était seul face à une horde de 30 otakus sur scène. Et comme c'était ses propres des génériques de dessins animés, c'est lui qui a gagné forcément.
Oui.
Mais en tout cas très sympa Bernard Minet puisqu'il était très disponible et donc voilà, donc non, c'était quand même un assez bon souvenir.
Je rappelle que Bernard Minet on la diffuse jamais sur FMR excepté pour déconner.
Ah oui, voilà, que dans notre émission.
non justement, j'ai les noms des émissions.
En tout cas, ce qu'on retiendra du Toulouse Game Show, si vous n'avez jamais assisté une fois dans votre vie à un cosplay, au moins ça s'est fait, puisque ceux qui étaient là, et vraiment, c'était assez impressionnant, le souci du détail dans les costumes, c'était assez effarant. Chris d'ailleurs, toi tu as mis les pieds aussi, as assisté au cosplay solo du premier jour d'ailleurs.
Exactement, oui.
Et t'es resté jusqu'à la fin?
Oui, j'ai tout vu. Bon, j'étais déçu que le résultat ne soit annoncé que le lendemain.
Ouais.
Donc, comme je suis pas venu le deuxième jour, j'ai pas pu trop voir qui a gagné. Mais sinon, oui, c'était assez sympathique, aussi bien au niveau des costumes que des chorégraphies qu'ils avaient improvisé pour l'occasion. Enfin, improvisé, c'était plutôt préparé. Mais,
oui. Ouais, mais il y avait un boulot de furieux.
Et d'ailleurs, il y a nos oreilles qui se souviennent encore d'une composition, d'une musique composée par l'un des candidats déguisé en néo avec une musique de Machina, assez insupportable d'ailleurs.
C'était sa prod.
C'était sa prod à lui. Et alors, d'ailleurs, le gagnant du cosplay solo, c'est un dénommé Junta qui était déguisé en Sasuke. Alors, je sais pas de quelle série.
Naruto.
C'est Naruto. Alors, je crois. Oui.
Tu sais, moins de 14 ans. Hein.
Et il a fait.
J'ai bien parlé chronique après.
Il a fait un kata sur scène qui était pas mal. Voilà.
Honorable.
On a eu du Dark Vador avec de la fumée. On a eu du Robocop qui.
C'est un modèle de poche.
Chibi Robocop qui a été surnommé sur le forum après. puis ensuite Chibi Cop. Et donc le cosplay était assez réussi puisqu'on voyait au départ un visiteur de la série V bastonner un gars du SGC en fait
Stargate.
Et là il y a Robocop qui arrive, alors la façon de bouger totalement en raccord avec le film, assez impressionnant.
Ils étaient vraiment en plein dedans. C'est tout ça pour vous dire que ça ne bouge pas, mais c'est en image, c'est sur le blog de Thomas. Donc vous tapez supplémentweekend.tk et avec un peu de chance vous allez tomber dessus sur les éléments et voir que ça a été très dur pour Sabrina et Chantal, nos chères compagnes. Quand même, hein, ça photographiait beaucoup vers les filles hein, pour nous deux.
Ah ben oui, forcément. Mais bon, après, on n'a pas pu poser comme on voulait avec les filles, donc on y reviendra sans elles la prochaine fois.
Ça, c'est, tu lui prends la responsabilité, mon cher ami.
Pourtant, il y avait du Lara Croft. Hein. Enfin bon, je dis ça.
Hein. C'était non, franchement, c'était très très bien. Il y avait donc l'un des dessinateurs du studio, Jihan, dessinateur du New Mao, donc aux éditions Chiaopan. Il y avait pas mal de boutiques. Quelques affaires à faire. Il y avait un club de go, il y avait des démonstrations de danse de verre pour le nouvel an chinois. Il y avait vraiment 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 beaucoup de choses.
Tout à fait, il y avait un salon de massage et aussi, mais qui était assez qui était pas gratuit forcément. Il y avait plein de petites activités comme du Dance Revolution, mais avec une queue immense, donc c'était, il fallait en vouloir quand même pour tester. Il y avait des concours de jeux vidéo, Pro Evolution Soccer, etc. Une finale assez impressionnante sur écran géant à la fin de tous les tournois de jeux vidéo de baston qui ont eu lieu le week-end.
Dance Revolution, il y a une fille quand même qui était en talent haut et qui visiblement connaissait bien le jeu parce qu'elle a pris direct au niveau hard, mais elle a jamais essayé les plateaux de danse avec les talons hauts. Alors ça faisait bizarre parce qu'au fur et à mesure elle faisait la gueule, miss, mais qu'est-ce que, et en fait elle tapait à côté du bouton.
Ah ouais, sinon elle crevait les diodes. Le talon.
Non, c'est prévu pour hein, ce genre d'engin. Attends, tu vois ce que Madonna a fait dans son clip avec, ça tient. Hein.
Bon voilà. En tout cas, c'était vraiment une réussite. Il fallait être prêt à mettre 8 euros dans l'entrée,
ça, c'était...
voire 9 euros le pass de 2 jours sur Internet.
C'était le gros inconvénient.
Voilà, on attendra la deuxième édition pour voir ce qu'ils gardent et ce qu'ils gardent pas. En tout cas, chapeau aux organisateurs, chapeau à la disponibilité et au dynamisme des participants du cosplay, à tout le monde, puisque
surtout aux organisatrices qui étaient toutes en Sailor Fuku de même couleur. Il y avait des groupes de Sailor Fuku en plus. Il y avait des filles qui étaient habillées en écolière, vous savez, les trucs, jupes, chaussettes montantes, etc. Toutes de la même couleur et visiblement c'était pas que c'était des fois des trucs complètement informels. Si la bande de copines, elles avaient toutes acheté la même chose et elles y allaient. C'était assez étonnant. C'est de voir que justement c'est pas un truc exclusivement masculin, et qu'en plus il y a beaucoup d'humour, beaucoup de choses. Il y avait une porte grandeur nature
de la porte
des étoiles, et Thomas a bien essayé de m'y jeter au travers.
Ah ben, il fallait payer 1 euro pour se faire photographier sur le pont, donc il y avait une barrière et tout. Alors je sais pas, je me suis pas assez renseigné pour savoir si on posait avec le déguisement du SGC ou non, mais en tout cas, ceux qui étaient déguisés, ça le faisait quand même.
C'était impressionnant.
Voilà.
Ça valait le coup. Enfin, c'est toujours mieux qu'un Chebawa en famille.
Un Chebawa en famille.
Chibi.
Chewbacca.
Oh, moi j'étais à la première orthographe qu'il y avait, tu sais, dans les livrets, que
d'accord,
quand on était gaming. Complètement autre chose puisqu'on en est au cinéma.
Oui, nous allons je réclame maintenant le jingle news, s'il te plaît.
Ah, fallait prévenir avant.
The news. Excusez-moi.
Merci. Alors si je vous dis un méchant tout vert avec des antennes de télétubbies et des grandes oreilles qu'un papy enfermait autrefois dans un autocuiseur. Chris, tais-toi si t'as trouvé. Un garçon...
Shrek.
Non, un garçon chauve au look de moine Shaolin rétréci au lavage qui n'a pas de nez. Un ancien bad guy devenu gentil avec un troisième œil au milieu du front.
Bon, ça y est, ok.
Un
ça
personnage
y est, j'ai compris.
À
non,
tête
non,
de cochon
plus.
Capable de se transformer en n'importe quoi et fan de culottes. Un vieux lubrique vivant avec sa tortue et sur une île déserte. Se trimballant avec une carapace sur le dos. Et un jeune garçon coiffé à la Vivelle d'Op et voyageant sur un nuage jaune avec une queue de singe. Vous l'aurez reconnu, le dessin animé emblématique du Club Dorothée pour les otaku qui se respectent trentenaires d'aujourd'hui, c'est Dragon Ball qui sort au cinéma produit par la Fox l'été prochain. Voilà.
Ah ouais, par la Fox.
Oui, dans le rôle de Sangoku, Justin Chatwin, vous
n'aurez pas pu prendre Justin Timberlake. Hein.
Ça vous, ben non, peut-être trop cher. En tout cas, ça vous dit peut-être quelque chose. C'était le fils de Tom Cruise dans La Guerre des Mondes. Bon, c'est pas un rôle très marquant qu'il a eu. Il y a également James Marsters dedans. Alors,
ouais, Buffy,
Spike, voilà,
Spike.
Le vampire Spike qui jouera Piccolo. Alors c'est produit par Stephen Chow, hein, donc le réalisateur de Kung Fu, Crazy Kung Fu et Shaolin Soccer notamment, qui a aussi dirigé une adaptation de La Légende du Roi Singe qui avait inspiré Toriyama pour Dragon Ball, qui s'appelle justement La Légende du Roi Singe, je crois d'ailleurs.
Bah, il y en a eu plusieurs adaptations au cinéma, en animation, même fait par des Russes d'ailleurs, était pas mal du tout.
Ouais.
Il y en a eu beaucoup, hein, donc c'est un grand classique.
Et donc produit par Stephen Chow et réalisé par James Wong, le co-réalisateur de Destination Finale et producteur exécutif de
So
de peut-être
non, Wayne,
Il a été producteur exécutif et scénariste de et collaborateur de Chris Carter sur X-Files, sur Millennium et sur Space 2063. Il avait quand même ça a été occulté par la Fox sur le communiqué. Il a été réalisateur également de The One avec Jet Li, qui était une merde infâme. Alors là, voilà. Alors sachant que le tournage est actuellement en plein boom et que le film est censé sortir en été prochain. Comment vont-ils faire les caméas dans un laps de temps si court? Alors là, j'ai peur, mais on sait jamais, on va voir.
Oh, principe du numérique. Bon, alors là, tu fais comme ça, ensuite on va faire après son caméa, on va animer ta bouche, et puis on laisse faire les magiciens d'ILM China, ils sont se démerder, hein, pas cher. D'accord. Voilà. Quel massacre.
Eh oui, Dragon Ball sort au cinéma, donc en version live l'été prochain.
Note, c'est toujours mieux qu'un Astérix par Christian Clavier.
Ah ben justement, le 3, il n'y est pas.
Ouf. Midi et 16 minutes sur la poubelle des radios, c'est le supplément week-end numéro pas mal. Du 1er décembre, oula, ça sent l'approche de Noël. Oui.
Oh, le marronnier bien, bientôt.
Je l'ai passé déjà, le cafard des fanfares. Où il dit qu'il aime pas Noël et Lampion et tout le reste. Bon, enfin, là, c'est pas le seul. Loin de là, et... Comment dire, on va profiter d'un invité sur le plateau pour parler de totalement autre chose. Chris, que nous as-tu concocté?
Alors, je vais vous parler du Dofus Artbook Session 3, chez Ankama Edition. Donc, Dofus, Thomas en a parlé la semaine dernière, c'est un jeu vidéo français qui fait partie de la catégorie des MMORPG. Donc en français, ça veut dire jeu de rôle en ligne massivement multijoueur.
C'est-à-dire qu'en fait, chacun joue un rôle. Hein. C'est pas l'ordinateur qui s'occupe des personnages joueurs.
C'est l'univers persistant.
Persistant, plusieurs joueurs dans une seule communauté.
La très très grosse différence avec Zelda.
Voilà. Alors, les atouts du jeu vidéo Dofus, c'est son ambiance graphique, très colorée avec un style manga, et son humour. Il y a des jeux de mots qui font référence à des séries, des mangas, des films, dans les noms des personnages et des objets. Donc par exemple, il y a l'épée d'A, l'arc l'avoine, la pelle de Cthulhu, la cape Uchino, etc. Donc c'est assez sympathique.
Et ça fait plaisir, évidemment.
Oui, c'est vraiment une bonne ambiance. Mais c'est parti d'une bande de potes à l'origine, donc voilà. Et ça a gagné en succès, c'est devenu une grosse machine maintenant, dans le monde entier. Il n'y a pas que des joueurs français dessus.
Mmh. D'accord.
Donc voilà, donc là je vais vous parler du troisième artbook. Donc le premier, qui était sorti il y a déjà 2 ans, était essentiellement graphique. Il n'y avait pas de texte, à part des petites descriptions pour les illustrations, en français et en anglais. Et justement, à l'époque, c'est un vrai bijou, mais à l'époque, les joueurs ont justement regretté le manque de texte, parce que le background du jeu était assez peu développé dans le jeu lui-même. En fait, ça tenait sur un ticket de métro, on peut dire. Les joueurs savaient 2 choses. Ils connaissaient la légende des Dofus, des œufs de dragon magique qu'il faut collecter, c'est la quête du jeu, en fait. Et ils savaient qu'il y avait une guerre entre 2 cités, Bonta et Brakmar, et puis ça s'arrêtait là. On ne savait pas grand-chose de l'origine du monde, du pourquoi, du comment, on ne savait rien. Donc justement, ils ont essayé de compenser ça dans le deuxième artbook, qui est plus orienté sur les textes. Donc il raconte l'origine du monde des 12. Donc il s'appelle le monde des 12 parce qu'il y a 12 dieux principaux. Chaque dieu est associé à une classe, une des classes que les joueurs peuvent incarner dans le jeu, en fait. Donc les infos du deuxième artbook ont été précédées de peu par l'ajout de grimoires dans le jeu lui-même, qui reprend un petit peu les textes de l'artbook en version plus condensée, sans les illustrations. Et donc le troisième artbook est dans la lignée du deuxième, c'est-à-dire que c'est aussi beaucoup de texte, mais alors que le deuxième c'était l'histoire, là c'est plutôt la géographie du jeu.
Donc là on a vraiment ce qu'on appelle un sourcebook, c'est-à-dire un livre qui en fait est un atlas à propos d'un univers fantastique.
Voilà, avec beaucoup d'illustrations, c'est quand même un artbook, mais bon, avec quand même beaucoup de rédactionnel, beaucoup de texte, pour permettre un petit peu de s'immerger dans l'univers du jeu. Alors, je vais vous parler du contenu de cet artbook, justement. Donc, il commence par 2 petites courtes parties. La première, donc, qui consacrée à un bestiaire sur les monstres à prime. Donc, c'est des bandits qu'on doit capturer contre de l'argent, ça fait partie des quêtes du jeu. Suivi d'une autre partie sur les familiers. Donc, les familiers, c'est des Tamagotchi, on va dire. Des petits animaux de compagnie qui apportent des bonus, mais qu'on doit nourrir régulièrement. Donc, c'est pas toujours évident, parce que voilà, il faut.
Ouais, et puis il faut les sortir pour qu'ils aillent faire caca, pour qu'ils aillent se faire sauter par un poule et tout le reste. On connaît voilà. Le principe.
Donc parmi ces familiers, on repérera quand même 2 visages plus ou moins connus, donc Féanor et Willy le Relou, qui sont en fait des personnages de bande dessinée édités aussi chez Ankama Edition, à savoir Maliki et Mutafugas, que Thomas a déjà chroniqué précédemment. Donc cette partie-là est suivie du gros morceau de Artbook, une histoire qui raconte les péripéties d'un groupe d'aventuriers chargés de tirer le portrait des créatures légendaires du jeu. Donc c'est un prétexte en fait pour présenter les différents boss du jeu et les donjons dans lesquels ils vivent. Ce qu'il y a, c'est que ces héros sont pas vraiment des bras cassés, mais bon, ils s'arrangent un petit peu pour éviter les affrontements avec les boss. Donc du coup, c'est assez à avoir en astuces sur les boss, les techniques pour les affronter, les astuces sur les donjons et tout ça, parce qu'en général, ils s'arrangent pour faire les dessins sans avoir à les croiser pour de vrai. Donc en tant que joueur, bon, ça manque un petit peu d'informations à ce niveau-là. Donc cette histoire est divisée en chapitres, donc chaque chapitre est consacré à un boss, avec deux illustrations pleines pages. Une représentant le boss et une représentant un crayonné d'une des scènes de l'histoire, plus quelques illustrations tirées du jeu. Donc cette partie, malheureusement, souffre de nombre conséquent de coquilles. C'est un mal qui touche l'artbook dans son intégralité, mais qui est flagrant ici parce que c'est la partie qui a le plus de texte dans l'artbook. Quand je dis nombre conséquent, je n'exagère pas, parce qu'en fait, rien que dans cette partie, j'ai relevé une trentaine de coquilles sur 31 pages de texte.
Ah oui, d'accord.
Oui. Donc voilà, donc il y a des fautes de frappe, de légères incohérences au niveau des noms qui sont pas les mêmes dans le jeu que dans l'artbook. Ouais, voilà. Donc c'est un petit peu dommage à cause de ça. Un autre détail qui m'a gêné dans cette partie, c'est la gestion du temps. Les chapitres s'enchaînent de manière trop fluide et on est surpris au bout de se rendre compte qu'au bout de quelques chapitres, on est passé du printemps en plein été, alors que ça s'enchaîne tellement vite qu'on se rend pas compte qu'ils mettent plusieurs mois pour aller d'une zone à l'autre. Ça aurait pu être plus précisé, quoi. Ça manque un peu. Mmh. On est vachement surpris. Quoi, c'est déjà l'hiver ?
Ouais.
Voilà. Donc, cette partie-là est suivie d'un bestiaire plus général que le précédent qui était consacré aux monstres de quête. Donc là, c'est les monstres d'un petit peu tout le jeu qui sont rassemblés par région. Donc, chaque région fait justement l'objet d'une jolie carte en vue aérienne assez détaillée. En fait, tous les endroits importants sont minutieusement représentés dessus. Et donc, chaque monstre possède une illustration et une description humoristique. Mais on peut déplorer justement une redondance dans ces descriptions. Par exemple, pour le monstre, il y a un monstre qui s'appelle le Blop. Et donc, dans la description, il raconte qu'il sait dire que deux choses, Blop et pas Blop. C'est une référence à Pif de Pif.
Oui, ça, oui, effectivement.
Donc, c'est marrant, mais le problème, c'est que 20 pages plus loin, il y a un monstre qui s'appelle le Bulbig, qui ne sait dire que Bulbe et pas Bulbe. Donc, c'est un petit peu dommage qu'ils aient utilisé la même référence à si peu de pages d'intervalle, quoi. Pareil, il y a des allusions à Titanic sur deux monstres différents et il y en a une de trop, quoi. C'est un peu dommage. Autre défaut de cette partie, c'est que les illustrations sont tirées directement du jeu. Donc, pour un joueur, en fait, il n'y a vraiment rien de nouveau à se mettre sous la dent. Alors que dans le premier artbook, il y avait des croquis en plus et ça ne limitait pas à ça, quoi. Donc, c'est vrai que des petits croquis préparatoires manquent un petit peu dans cet artbook-là. La dernière partie est consacrée au protecteur des mois, parce que donc dans Dofus, les mois de l'année portent des noms différents des nôtres, donc par exemple le mois de janvier devient Javian, février devient Flovor, etc. Et donc chaque mois est associé à un gardien, donc une entité assez puissante. Il était à noter que dans le jeu, en fait, ces gardiens sont carrément absents. Ils sont à peine évoqués dans les grimoires du jeu, ils donnent juste leur nom aux différents serveurs du jeu, donc les serveurs, c'est... chaque serveur représente une communauté de joueurs, ils sont tous indépendants, c'est parce qu'il y a trop de joueurs à Dofus pour tous se rassembler sur un seul endroit. Et donc cette illustration est assez sympathique parce que donc cette partie est assez sympathique parce que les illustrations sont vraiment bien, les descriptions des personnages sont intéressantes. En fait, c'est vraiment un bon coup de cœur et ça fait regretter que ces protecteurs justement des mois ne sont pas plus représentés dans le jeu. C'est voilà qu'il y a un vrai travail de fond au niveau de leur apparence, de leur background et ça serait vraiment un ajout intéressant dans le jeu, le fait de plus développer leur présence dans le jeu.
Alors justement, moi j'aurais une question à te poser là-dessus, ouais. Puisque tu as mené ta petite enquête, je suppose. C'est est-ce que ces personnages ont été développés exprès pour le artbook, ou est-ce que justement leur bible a été écrite au moment de la conception du jeu ?
Alors peut-être pas au moment de la conception du jeu, mais je pense que c'est venu à l'époque où ils se sont vraiment posé la question du background du jeu, parce que donc comme j'ai dit au début, c'était assez léger, et donc peut-être que les créateurs avaient dans leur tête déjà de nombreuses idées, mais c'était pas mis noir sur blanc, et les joueurs n'y avaient pas accès. Donc c'est sûr que les protecteurs des mois existaient de longue date parce que déjà ils donnent leur nom au serveur. Donc déjà dès le début, il y avait déjà deux ou trois serveurs qui portaient des noms de ce qui allait devenir les protecteurs des mois. Donc je pense qu'ils avaient déjà une petite idée en tête à ce niveau-là. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas assez exploité dans le jeu. On n'en sait pas plus sur eux. Et donc l'artbook se conclut sur une map monde en fait qui permet de situer tous les lieux décrits dans le livre.
Donc poubelle, dossier A, dossier B, dossier C, dossier MP3 et tout le reste quoi.
Pardon.
Non, pardon.
Donc, pour conclure, donc je dirais que le premier artbook avait l'avantage d'être appréciable même pour les non-joueurs, parce qu'il proposait de nombreuses illustrations de qualité. C'était un vrai bijou. Le deuxième artbook avait moins d'intérêt pour les non-joueurs, mais permettait en fait d'être une bonne introduction au jeu. Donc même pour les non-joueurs, ça permettait de découvrir l'univers et d'avoir envie, après coup, de se mettre au jeu. À mon sens, le troisième artbook a d'intérêt seulement si on est joueur ou si on possède le deuxième artbook. Si ce n'est pas le cas, le lecteur risque d'être un petit peu rebuté par des mots comme Sadida, Enutroph, tout ça, le vocabulaire typique du jeu.
Ah, Sadida, je sais, j'ai vu le manga. Donc Sadida, c'est la communauté qui vit à côté de la forêt, c'est ça ?
Voilà, donc c'est une des 12 classes du jeu, qui en fait, il vit en harmonie avec la nature. Ils sont censés dormir 23 heures par jour.
D'accord.
Ce qui est marrant parce que moi je connais des gens qui jouent des Sadida et qui sont connectés dans le jeu plus de 10 heures par jour. Donc je sais pas quand est-ce qu'ils sont censés dormir. Enfin bon, donc le troisième artbook sera le dernier officiellement. Ce qui est surprenant car le monde des 12 est en éternelle expansion. Régulièrement il y a des nouveaux lieux, des nouveaux monstres, donc forcément de nouvelles illustrations qui ne seront jamais rassemblées dans son artbook. Heureusement existe le Dofus Mag. Après un numéro 0 qui était sorti à l'occasion de la Japan Expo et qui a servi de coup d'essai, le numéro 1 sortira le 15 décembre. Et donc le Dofus Mag c'est ce qu'on appelle un MOOC, c'est une contraction de magazine et artbook. Il paraîtra tous les deux mois et donc comportera de nombreux articles sur les gens Kama. Oui, Xavier, tu veux
distribué en kiosque ?
Distribué en kiosque, oui. Le ouais, premier, le zéro était disponible uniquement à la Japan Expo et par commande sur internet, mais le numéro 1 sera en kiosque. Il sortira donc tous les deux mois à 7,90€. Et donc il comportera de nombreux articles sur les jeux d'Ankama, donc pas seulement Dofus, mais aussi Dofus Arena qui est une déclinaison et Wakfu qui est le prochain grand jeu d'Ankama qui devrait sortir dans plusieurs mois. Enfin, tout le monde espère rapidement, mais.
En tout cas, il y a déjà des trailers assez sympas sur le sur,
oui,
net,
sur Wakfu, hein. Oui. Et donc, ça sera accompagné de nombreuses illustrations liées aux nouvelles extensions et ça compensera l'absence d'un quatrième artbook. Donc voilà.
D'accord.
Si quelqu'un a quelque chose à rajouter, toi.
Bah, juste rappeler peut-être déjà les éléments.
Oui, donc c'est le Dofus Artbook Session 3 sorti chez Ankama Edition. Donc Thomas, d'accord, qui n'est pas joueur, l'a fait être un petit peu feuilleté. T'as peut-être déjà.
D'accord, le format, c'est un format un petit peu plus grand que A4. Moi, je m'attends.
Plus large, mais moins haut.
Moi je m'attendais justement à un format un petit peu plus grand quand on parle de hardbook, mais bon, c'est personnel.
Et donc donc on avait fait appel à Chris pour chroniquer Starbook, parce que moi c'est vrai qu'en tant que non-joueur, je m'attendais plus à des illustrations vraiment comme un artbook. On n'est pas obligé de connaître le jeu comme dans les artbooks de séries animées par exemple, on n'est pas obligé de connaître la série. Et là c'est vrai que c'était assez déceptif, puisque il y avait pas mal d'infos qui concernaient uniquement le jeu, avec des trucs qui pouvaient servir uniquement les joueurs, et puis pour ceux qui étaient totalement profanes, ça avait un intérêt assez limité, donc...
Il faudra que tu te rabattes sur le 1.
Voilà, bah le 1, je pense que ça s'adresse plus à des gens comme moi en fait.
Tout à fait.
Merci Manu.
Non,
Chris,
c'est
Chris qui a un studio de prod à la maison, si je peux dire, et qui a un site web. On le mettra en lien sur le site web. Sinon, merci. Si vous avez de quoi noter et que vous êtes rapide, c'est studioforward.com avec un tiré.
Non, sans tiré.
Studioforward, FOWARD.com. Voilà.
On écrit forward, mais
je crois que t'as oublié un R.
C'est pas grave.
FOWARD.
Non, c'est forward.
Ah mince. D'accord, ok, je me suis toujours planté alors. Hein, quoi? Comment ça alors de la pub? Midi 30 exactement. Oh mince!
Avec 1500 vélos en libre service, Vélo Toulouse vous donne plus d'autonomie pour circuler en ville.
Un vrai plaisir, quand on sait en plus que la première demi-heure est gratuite.
Vélo Toulouse, c'est plein de formules.
Mairie de Toulouse. Abonnez-vous sur www.vélo.toulouse.fr.
Je crois que sur Europe 1.
Plateau, Toulouse Plage.
Moi, je comprends pas. Le nom Moudinquette était joli. On aurait pu appeler ces vélos les Moudinquettes. Enfin bon, puisqu'on en reste donc au moins de 14 ans scotché sur l'ordi, non je décode complètement, mais de fans de jeux vidéo puisqu'il en est question dans la bande dessinée. Julien Nel, Lou, le quatrième tome vient d'arriver. Je peux vous dire que ça a été de haute lutte pour le chroniquer et l'amener ce matin. Je sais que ce sera très difficile de le garder tout à l'heure et encore moins de faire en sorte qu'il ne soit pas feuilleté à table. Julien Nel, donc Lou, le quatrième tome, il dit, vient d'arriver dans la collection Cho chez Glénat. Et c'est l'histoire d'une petite fille, Lou. Lou, elle va fêter ses 14 ans, elle part avec ses meilleures copines en vacances à la plage, alors que l'éditeur du premier roman de sa mère lui propose de faire une tournée de dédicaces dans toute la France. Car Sidera, son premier roman, semble avoir eu beaucoup de succès auprès des lecteurs de science-fiction. Une tournée de dédicaces pendant l'été avec son amant. Bien sûr, vous vous souvenez ? Richard, l'homme à la veste berger pour qui la maman de Lou était capable d'abattre des murs, se séparant leur appartement. Donc Lou est parti avec ses trois meilleurs amis, les parents de Marie et Émilie, qui ont loué une superbe villa au bord de la mer. Mais il est l'âge, pardon. Il est temps pour elle de découvrir les premiers frissons de l'amour. Il se trouve que quatre garçons, c'est exactement ce qu'il leur faut, surtout quand ils sont en Vespa, ce qui ferait hurler la trop attentionnée mère de Marie et Émilie. Marie-Émilie est une gothique en fait, pas vraiment par conviction mais juste pour faire aller ses parents un peu bourgeois, on va dire. Manque de bol, il se trouve que le plus beau des garçons de cette petite bande n'est autre que Tristan, le jeune voisin perdu de vue quand Lou est entrée au collège à la fin du tome 2 et dont elle était secrètement amoureuse. Hey, get up, brothers. Don't sit there with your head hanging down. De cette bande de filles, de cette bande de garçons, les corps ont grandi, ont pris forme, les têtes se sont remplies. Mais vont-elles se mettre à tourner ? Beaucoup moins fantastique que les précédents albums, alors qu'elle devient plus responsable, Lou commence à avoir un regard un peu plus serein sur le monde qui l'entoure. Ce qui donne, hélas, une narration un peu moins expérimentale que par exemple le tome 3, le cimetière des autobus. La découpe de gags en une planche pour après publication dans le magazine Cho n'est pas franchement visible quand on lit l'album si on n'est pas au courant. Les couleurs acidulées, un graphisme naïf, rond, sans faille, surtout très 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 kawaii, mignon, pardon. On est transporté dans l'univers de cette jeune fille qui va devenir adolescente. Dès les pages de garde qui reprennent son journal intime, un univers poétique qui passe progressivement de l'innocence de l'enfance à celui des premiers amours. Ceux qui ne dureront qu'un été. Sinon, on avait déjà eu une information dans cette émission comme quoi la bande dessinée serait adaptée en dessin animé. Et ben, on attend ça avec impatience. Mais surtout, on sera très curieux de voir comment ils vont garder la progression du personnage de Lou. Parce que c'est tout ce qui fait la finesse de la série BD. Donc voilà. Lou, le quatrième tome s'appelle Idylle, est prépublié dans le magazine Cho, et donc publié dans la collection Cho chez Glénat, et c'est de Julien Nel. Nous sommes le 1er décembre, on approche de Noël. Ça sentait le marronnier à plein nez depuis le début de cette émission et on a régulièrement des produits culturels, commerciaux, emballés, pesés pour être mis sous le sapin. Genre Demis Roussos, affublé d'une houppelande et un peu de neige en bombe sur son torse velu. Le tout packagé dans un CD au titre tout trouvé. Demis Roussos chante Noël. Demis Roussos fait peur aux reines. Demis Roussos contre le père Fouettard. Le tout avec du doré dessus, une flèche fluo marquée cadeau idéal accrochée au-dessus de la casquette de supermarché. Jim Davis, les deux albums Garfield, ma saison préférée, et Garfield aime les cadeaux. Chez Via Media n'échappe pas à cette logique. Et si un éditeur a eu une idée hyper vachement originale ? Et si on éditait les aventures de Garfield ? Ah mais si, tu sais, Garfield là, le chat qui a cartonné deux fois au cinéma avec la voix de Coué. Oh, me dis pas que tu connais pas Garfield, allez, c'est une BD quoi, mince. Bon, personnellement, j'ai comptabilisé sur les 15 dernières années, il y a eu au moins 10 éditions francophones différentes des aventures de Garfield, entre le format A5 à l'italienne, à la couverture alu de Dargo, à celle de Hachette, aux poches j'ai lu bande dessinée. Bref, rien de franchement transcendant, loin de là. À vrai dire, si je veux éditer du Garfield, personnellement, moi, en montant ma petite SARL, il me suffit de négocier un prix avec un imprimeur, aller voir un relieur d'album, ou pas, ça dépend, hein, on peut faire un format souple, trouver un distributeur et passer un coup de fil à Paus, la société de Jim Davis qui distribue les franchises. Je peux même faire, comme l'a fait Glénat à une époque, chercher s'il n'y a pas eu des aventures d'un chat orange en manga qui a échappé à la sagacité des avocats et qui s'appellerait Adventures of Garfield. Si, si, ça existait. Bon, revenons à ces deux albums. L'idée qu'a eu l'éditeur via Media, c'est de regrouper tout ce qui a un rapport avec Noël dans les histoires de Garfield. Comme le chat le plus paresseux du monde est sorti de sa couette en 1978, à raison d'une planche de gag par jour, ça en fait du matériel mine de rien. Et là où ça devient très intéressant de façon accidentelle, c'est que cette compilation permet de voir l'évolution de la patte de Jim Davis, le dessinateur. De l'évolution de son univers, la roublardise de Garfield, gourmand et impatient de déballer ses cadeaux. Bref, c'est une vision très tronquée de l'univers créé par Jim Davis, mais cette compilation thématique, est intéressante à lire justement par le panorama qu'il offre. Et après, vous l'offrirez à vos petits cousins, ça les fera hurler de rire, et puis voilà, mission réussie. Jim Davis, ma saison préférée, et Garfield aime les cadeaux, c'est deux albums dans la franchise Garfield, édités par Via Media, format cartonné, 80 pages, donc voilà, idéal, bien placé à côté du stand-up de Demis Roussos, fait martyrise les petits enfants passage. On va changer littéralement d'ambiance. On est toujours dans les sorties bande dessinée, les midi 37. Didier Convard au scénario, Denis Falco au dessin. La dernière fois qu'on les a vus, c'était dans le Triangle des Secrets, qui n'était pas fabuleux. Il y avait des manques de cohérence sur le dessin, puisqu'il y avait plusieurs dessinateurs qui intervenaient. Là, seulement Denis Falco au dessin. Le Protocole du Tueur, c'est une nouvelle série. Le Protocole du Tueur en lui-même, on n'a pas de nom de la série. C'est dans la collection Investigation chez Glénat. Et on suit Laure Malive. Une jeune étudiante en journalisme, à 23 ans, elle a la vie devant elle, fille unique de parents attentionnés qui sont très heureux de savoir qu'elle aura une vie à l'abri du besoin. Mais le dessin va en décider brusquement autrement. Elle sera la quatrième victime d'un tueur en série, le tueur à la ficelle. Là où ça devient plus glauque, c'est que son assassin s'est filmé et a envoyé la vidéo à Jean Lestrade. Jean Lestrade est député maire de la ville où étudie Laure Malive, un homme politique couvé par son parti et qui pourrait bien se retrouver ministre au prochain remaniement ministériel. Une vidéo macabre qui se double d'un possible scandale. Car il se trouve que sur la vidéo, le tueur confirme qu'il est au courant que Lestrade découchait avec la jeune Malive à l'insu de son épouse. On a question bien évidemment de transmettre cette vidéo à la police. Il pourrait avoir des fuites et à moins d'un mois d'avoir un boulot de ministre, ça la fout très mal. Et il faudrait donc arriver à subtiliser l'ordinateur portable avant l'enquête. Il va justement profiter de l'amitié de Kélian, inspecteur de police criminelle, pour barboter l'ordinateur de la scène de crime avant la découverte du corps. Kélian qui est justement à la poursuite de cet assassin qui a étouffé 4 femmes en leur liant les pieds. Mais il sent que cette fois-ci quelque chose cloche dans cette histoire. Quelque chose qui tourne moins rond comme si les précédents assassinats n'étaient pas déjà assez écœurants. Premier tome d'une série haletante, le lecteur se fait embarquer dans une histoire particulièrement glauque. Politiques et policiers se retrouvent à nager en eau trouble pour sauver les apparences. Mais cela ne fait-il pas justement encore plus le jeu du tueur? Qu'est-ce qui va empêcher Convard et Falk de recommencer dans une série noire encore plus crispante? Didier Convard au scénario, Denis Falk au dessin, Le Protocole du Tueur. Joli choc dans la collection Investigation chez Glénat. Kazuo Koike au scénario, Kazuo Kamimura au dessin, Lady Snowblood, Vengeance sanglante. C'est dans la nouvelle collection Sensei chez Kana. On est à la restauration Meiji, c'est la deuxième partie du 19e siècle au Japon, alors que justement cette archipel qui avait prôné l'enfermement à la culture étrangère se voit obligé de s'intéresser aux bienfaits de la civilisation occidentale importée par les Américains et Européens. Bon, il faut dire qu'ils sont un peu obligés parce que en fait les principaux ports commerciaux du Japon, il y en a qu'un, Yokohama, a été sous le siège des canonnières américaines du style « Laissez-nous vous vendre le riz de l'oncle Benz !» Sinon...
Non, c'était plutôt les Anglais, à mon avis.
Non, c'était les Américains. Du sport. Tu te souviens la dernière fois que tu t'es fait fesser par Didier Passamonique par téléphone? S'il te plaît. Non, ça va, blague à part. Le peuple vit dans la misère d'une crise économique suite à l'inflation du budget de l'armée. Les samouraïs sont au chômage. Le shogun n'occulte plus le rôle de l'empereur. Le règne féodal abandonné pour l'ouverture au mode de vie européen. Sayokaji est la prisonnière numéro 701. Violée pendant 3 jours par des bandits qui ont assassiné son mari et son fils sous ses yeux, elle avait décidé de laver son honneur dans le sang. Elle tuera le premier sur les quatre et se fit prendre et enfermer à vie dans une prison de femmes, alors qu'une envie irrépressible de vengeance consume son esprit. Elle amènera à son terme par la plus vicieuse des manières. Elle se fait mettre enceinte par l'aumônier de la prison et confie l'éducation de son enfant à d'autres co-détenus qui ne sont pas condamnés à vie, avec pour mission d'apprendre à son enfant à tuer, pour que le bébé assassine à tout prix 3 personnes. Yuki, Neige, est une jeune femme à la beauté fascinante et vénéneuse. Et telle que l'a décidé sa mère, son destin est de semer la mort sur son passage. Maniant aussi bien les armes que son corps, son habileté, son intelligence acérée en font une femme absolument dangereuse, qui ne connaîtra le plaisir que dans l'assassinat. Keiko Kaji est une héroïne à l'âme parfaitement noire et dont on ne sait jamais exactement comment elle va mener à bien chacune de ses mises à mort. Certaines se montreront particulièrement tortueuses. Dans un Japon qui saute brutalement 5 siècles en avant en moins de 30 ans, sa vendetta ne peut être couverte que grâce à des amitiés particulièrement douteuses. Quant à son éducation d'assassin, il semble aussi troublé que celui d'une geisha. Il semble aussi doublé, pardon, que celui d'une geisha, une femme artiste, ayant de bonnes manières, mais qui n'est pas issue de la noblesse ou de la bourgeoisie. Quelque chose de bien désuet au moment où l'Empire du Soleil Levant va entrer dans une phase d'expansion militaire. Maculant de sang la blanche neige, Lady Snowblood règle les comptes avec un passé qu'elle n'a pas connu, dans une vengeance meurtrière et esthétique. La femme fatale qui n'a pour raison de vivre que de tuer une liste bien définie de bandits, c'est bien évidemment l'intrigue qui inspirera Kill Bill à Quentin Tarantino, pardon, Quampai Quino. Et qui fait dit, il faut dire que le bouquin est bourré de planches au graphisme époustouflant, des scènes d'une beauté envoûtante dans les ambiances et décors, mais aussi les combats à l'esthétique implacable, ou même les geysers de sang sont beaux, bouquets finaux de passes d'armes homériques, ponctuant ces images quasi photographiques, où les corps des adversaires tués d'un seul geste sont encore suspendus en l'air, jusqu'à ce que la fine bretteuse intime le silence à son katana d'un coup sec. C'est le chef-d'œuvre dessiné par Kazuo Kamimura avant qu'il ne meure d'épuisement à 45 ans. Le scénariste Kazuo Koike fit l'adaptation de sa manga au cinéma, puis écrira Golgo 13 et Lone Wolf and Cub, alias Baby Cart au cinéma, 6 films qu'il a lui aussi scénarisés, dessinés par Goseki Kojima, puis Crying Freeman, encore une histoire de vengeance tragique, dessinée par Ryuichi Ikegami, là aussi adapté au cinéma, mais cette fois-ci par un réalisateur français, avant de devenir en 2000 professeur et recteur à l'université de lettres d'Osaka. Enfin, l'université d'Osaka. Laurent, tu serais gentil, quand tu retourneras à Osaka, on te demandera une petite dédicace du bouquin. Bon. Et alors, je vous le donne dans le mille. Vous savez qui a signé l'introduction de ce premier tome de l'édition française?
Ben, moi, je l'ai lu, alors. Je vais pas trop dire. Disons que c'est l'ex-rédac chef de Metal Hurlant qui...
C'est le même personne que la semaine dernière.
Oui, encore.
Oh, oui. C'est Jean-Pierre Dionnet. Et pour cause, parce que non seulement c'est très très riche point de vue sur les plans, je vais dire cinématographiques, point de vue enseignement et vraiment la culture que cela a mené sur le renouvellement, en fait, la dernière vague des films de sabre japonais avant l'ère moderne 2005 qui vient d'arriver. Lady Snowblood de Kazuo Koike a énormément influencé, je vais dire, aussi bien les mangas que les films, et donc pas qu'au Japon, mais aussi aux États-Unis et internationalement. Mais surtout, c'était un gros spécialiste du personnage au destin tragique et qui ne peut que tuer contre son gré, mais il a des gens à tuer. Voilà. Et voilà. Et donc, Dionnet le rappelle d'une manière fort élégante, très très bien écrite, fort bien documentée, et c'est vraiment un plaisir. Donc voilà. Kazuo Koike au scénario, Kazuo Kaimi Mura au dessin, avec une introduction de Jean-Pierre Dionnet. Lady Snowblood, le premier tome s'appelle Vengeance sanglante.
Ah merde, c'est un volume 1.
Oh. Ah oui, oui, il est épais. Hein,
malgré le pas vexé, ouais, c'est un volume 1.
Voilà, c'est dans la collection Sensei chez Kana, donc il n'y a pas le logo Kana dessus, exprès pour dire non, c'est un truc adulte, c'est pour ça qu'on a mis Sensei dessus. Donc voilà.
Il y a combien de tomes?
Alors là, je crois qu'il était connu justement pour faire des trucs à rallonge.
Oh là là.
Ah. Et c'est un bonheur. Par contre, tu remarqueras qu'il y a une caractéristique des bandes dessinées françaises.
Il y a une caractéristique des bandes dessinées françaises dans la BD là.
Ouais. Les femmes à poil.
Ah ben oui.
C'est Thomas qui dit tout le temps ça. Ah, il y a une femme à poil, c'est une BD française.
Ah ben, je me suis retenu pour le protocole du tueur, mais il y en avait pas mal, hein. Surtout qu'elles ne bougeaient plus et qu'on les voyait souvent. là, c'est vrai que ouais, y a rien de tel pour déconcentrer l'adversaire quand on brandit son katana. De toute façon, quand on est une fille. Hein.
À poil dans la neige.
Voilà.
Donc voilà, fallait oser. Pour l'anecdote, une des chansons du volume 2 de Kill Bill est interprétée par Keiko Kaji, qui est le nom donc de l'héroïne Lady Snowblood dans la bande dessinée. Et c'est un peu normal parce que les paroles en fait sont de Kazuo Koike, et c'est extrait de la bande originale du premier film Lady Snowblood, puisqu'il y en a eu deux. Voilà.
きれいとおだてられ咲いてみせればすぐ散らされるバカなバカなバカな女の恨みいぶし定め悲しと諦めて泣きを見せればまた泣かされる女女女涙の恨みいぶし憎い悔しい許せない消すに消えない忘れられない月月ぬ月ぬ女の恨みいぶし夢よ未練と笑われて冷めて見せますまだ冷めきれぬ女女女心の恨みいぶし 刺したかないが刺さずにゃおかぬ燃える燃える燃える女の恨みいぶし死んで花見が咲くじゃなし恨み一筋生きてゆく女女女命の恨みいぶし
On arrête un peu là, zou. En son Dolby numérique THX, sous-titré mono polonais sur la TNT.
Russe.
La rubrique cinéma avec Thomas. Oh
ouais, avec le retour de David Cronenberg aujourd'hui.
David Cronenberg.
Ah, il n'y a pas un qui a dit Cronenbourg aujourd'hui, ça me fait plaisir.
Non, on a eu notre quota la dernière fois qu'on en a parlé. Donc.
D'accord. Alors,
Non, mais c'est parce que, si tu veux étymologiquement, ça ne veut pas dire la même chose, Berg et Burg en allemand.
D'accord.
Donc alors, tu ne peux pas faire le... Berg, c'est la montagne et Burg, c'est la ville.
D'accord.
Ouais, on ne peut pas dire, okay. Il descendait de la ville à cheval au haut et quoi.
Les promesses de l'ombre, nouveau film de David Cronenberg. Alors ça raconte l'histoire d'une jeune prostituée de 14 ans qui est admise à la maternité. Elle met au monde son enfant mais elle meurt. Et la sage-femme qui l'avait accouchée en fait récupère son carnet intime. Sauf que ce carnet intime c'est pas n'importe quoi, il est écrit en russe. Et ça raconte ses rapports avec la mafia et met en cause directement le fils du parrain local. qu'il aurait violé et tout. C'est une mauvaise idée quand même d'être une prostituée sous la coupe des mafieux russes de Londres. Donc très mauvaise idée. Alors c'est la deuxième incursion de Cronenberg dans le genre thriller mafieux après History of Violence. C'était son précédent déjà. À mon avis, il va faire peut-être une petite trilogie autour de ça. On sait pas trop. Et si la mafia russe, on voit très bien après avoir vu le film pourquoi il a choisi ça, c'est pas du tout pour la consonance et pour le
glamour russe.
Ouais, non, la vodka, tout ça, même s'il y en a beaucoup, c'est pas pour ça, c'est surtout pour les tatouages des criminels qui se tatouent sur la peau justement en prison. Et
donc comme les Chinois, les Japonais, les Amérindiens.
Eh oui, mais sauf que là, c'est chaque élément tatoué a son propre langage, mais ça c'est la palissade, mais aussi son propre emplacement dans le corps et témoigne à chaque fois. Si tu as par exemple une étoile sur les genoux, c'est-à-dire que tu t'es jamais agenouillé devant personne, tu as le cœur qui est libre pour justement ton appartenance à la future mafia ensuite. Donc c'est un code,
si jamais tu t'agenouilles, ils font comment? Ils enlèvent le tatouage au scalpel ou?
Eh bien on sait pas, à mon avis si tu t'agenouilles une fois, tu y passes, j'en sais rien, je sais pas du tout.
Ils ont pompé ça aux Japonais, hein. C'est pas possible quoi.
Ah ouais, sauf que là ils ont pas de dragon, pas... à un moment donné on voit le tatouage de Viggo Mortensen derrière, c'est carrément le...
C'est plutôt proche des Cosaques. Hein.
Ouais, on voit l'architecture russe, etc. Donc c'est vraiment très beau. Et quand on sait de toute façon tout le rapport qu'a Cronenberg avec le corps, avec l'identité, etc., on voit vraiment ce qui l'a intéressé dans ce film. Et on voit aussi sa fascination pour le médical, puisque lui, il ne réchigne pas du tout à filmer des hôpitaux. Les interventions. On a vu souvent des mises au monde assez hardos au niveau aussi la mouche et faux semblant, avec tout ce qui est scalpel et tout. Lui, il a une fascination pour les objets chirurgicaux. Voilà. Il décide absolument pas à les montrer en gros plan, puisqu'on voit aussi un cordon ombilical sectionné en très gros plan. Donc voilà, bon, les hommes sensibles, s'il y a du sanguinolent dans le film, il n'y a pas de problème. qui dit mafia dit règlement de compte expéditif. Donc là, on assiste pas mal à des égorgements aussi en gros plan. Donc comme c'est du Cronenberg, souvenez-vous de Scanners, souvenez-vous de déjà History of Violence avec la mâchoire explosée. Là, on voit aussi en gros plan avec des gars qui mettent beaucoup de temps à mourir. Il y a pas de souci non plus. Bon voilà. Ensuite, il y a aussi le thème qu'il avait développé aussi dans le précédent film. Encore une fois, c'est le thème de la normalité par rapport à un monde beaucoup beaucoup plus glauque, puisqu'on voit la confrontation de la mafia avec des familles tout à fait normales. Là, la normalité, c'est incarné par Naomi Watts, qui joue le rôle de la sage-femme. Alors, elle est très peu maquillée, parfois pas très mise en valeur, puisque avec des contre-jours, des lumières rasantes, on voit toutes les une peau qui est pas parfaite et tout. Et c'est vraiment assez saisissant par rapport à d'autres films comme Lynch, qui a tendance beaucoup à jouer sur l'esthétisation. Et là, c'est vraiment assez frontal, c'est brut, donc c'est évidemment, il y a toujours cette cohabitation entre les deux milieux, mais à chaque fois ensuite ça s'interpénètre, puisqu'il y a la mafia, finalement on voit que la nana, elle a une fascination un peu malsaine pour certains hommes de la mafia. Les mafieux, ils ont aussi leur propre code familial aussi, puisqu'il est beaucoup question de paternité dans ce film, puisque le mafieux, le parrain de la mafia, très attaché à son fils, qui est, on va dire, qui est pas très viril, puisqu'il vous allez voir, il y a beaucoup de questions de sexualité dans le film, et donc on retrouve aussi cette notion de paternité, relation filiale, puisque la sage-femme aussi a précédemment mis au monde un bébé qu'elle a perdu. Donc il y a tout ce background aussi, ce pathos aussi qui est très présent dans le film. Alors, ce qu'il y a de bien avec Cronenberg, et ce qu'il y a aussi de déroutant quand on découvre pour la première fois ces films, c'est qu'on a toujours l'impression que c'est un scénario un peu léger au départ. On se dit, tiens, bon, il s'est pas trop foulé cette fois-ci. Et puis quand tu le vois une deuxième, troisième fois, ah ouais, tu grattes, tu vois pas mal de trucs cachés. Et d'ailleurs, c'est assez flagrant sur les films ultra codifiés comme les films de mafieux, puisque autant quand il allait dans du fantastique comme dans Existence ou Vidéodrome, tu voyais vraiment dès le premier abord qu'il y avait des trucs à gratter. C'était quand même dépaysement total. Et là, quand c'est du film de mafieux, tu croirais d'abord chez Scorsese, et puis tu dis, ah, il y a des détails qui sont pas chez Scorsésien, il y a des trucs un peu bizarres. Et j'en ai pour preuve cette scène énormissime, je crois, qui va frapper tous les fans de Viggo Mortensen et surtout la gente féminine. Il y a une baston dans un hammam où Viggo Mortensen est à poil, et on voit tout, puisque la caméra est mobile, il fait des cabrioles et tout. Donc bon, voilà, la gente féminine sera assez satisfaite. Et cette scène, je peux pas trop en parler parce que ce serait spoiler pas mal de détails qui sont pas dits au début du film, et qu'on apprend par des dialogues détournés au fur et à mesure. Ah oui, donc lui, il a été passé. Ah oui, ça c'est seulement mentionné, mais c'est là que tu comprends. Ah ouais, donc ça veut dire ça et tout. Et cette scène, c'est le pivot du film, au même titre que la scène, la confrontation avec Ed Harris dans History of Violence, où tu apprends effectivement que son passé qu'il essayait de cacher et tout, c'est vraiment lui le tueur dans History of Violence. Et là, tu vois aussi la personnification de l'identité du personnage de Viggo Mortensen, qui est mis au grand jour avec beaucoup de symbolique, etc. Cette scène est vraiment hallucinante au niveau chorégraphie, au niveau violence brutale. C'est pas du tout voilà, viens ici, il y a pas du tout de gimmick et tout. Les personnages, quand ils veulent le tuer, ils vont à l'essentiel. Ils plantent là où ça fait mal, et là ça triche pas, parce qu'ils sont Viggo Mortensen est à poil, donc tu vois les blessures, etc. Donc c'est un gros effort de maquillage et de chorégraphie. Cette scène a demandé 2 jours de tournage. C'est la scène que tu retiens de toute façon en sortant du film. Et le film est saisissant aussi à ce niveau-là. Moi, j'avais aussi quelques bémols, puisque bon, ça se passe dans la communauté russe de Londres. Alors bon, moi j'ai vu en VF, gros défaut, donc accent russe à couper au couteau, mais tu te dis c'est pas possible qu'ils aient laissé passer ça. Ou alors, il y a McTiernan qui avait un bon stratagème en fait dans ses films, c'est que les personnages parlaient avec des accents au début, mais comme tu es pile poil dans la communauté, c'est pas à peine de garder cet accent ensuite, puisque tu t'identifies au russe, donc après ils perdent cet accent. Et là, la VF en tout cas, je sais pas ce qu'il en est pour la VO, ne prend pas ce parti pris, et c'est assez dommage, puisque totalement les dialogues sont constamment parasité par cette faux accent russe, mais qui est vraiment insupportable. Le jeu de Vincent Cassel, tu sais pas trop s'il faut l'encenser ou vraiment penser qu'il va dans le ridicule à fond les manettes, parce que là, il est bon. Le personnage qu'il incarne est assez particulier à la base, mais bon, t'as toujours l'impression qu'il en fait des tonnes, et en même temps, tu sais pas trop si c'est le personnage qui veut ça ou si c'est lui qui s'approprie le personnage de façon assez grotesque. Alors, le jeu est assez particulier également. Des dialogues du film sonnent étonnamment pas très justes par rapport à d'autres films de Cronenberg. Par exemple, on voit une scène où il y a un des jeunes de la mafia qui va voir Chelsea, puisque c'est son grand rêve et tout, et là il est accosté par un membre des forces de l'ordre qui lui dit: attention petit, faut pas s'énerver. C'est n'importe quoi, tu dirais pas ça dans une situation de cette façon là il y a des dialogues aussi qui sont de cette façon là qui sont assez...
Attends, c'est la spécialité de la police anglaise aussi.
Ouais, mais l'intonation, c'est, je sais pas, il y a une défaut dans la VF. En même temps, je n'ai vu que la VF, donc il faudra voir la VO.
Bon, je tiens à signaler que j'avais prévu un sketch, c'est précédemment dans le supplément week-end, et je voulais mettre un extrait de Jericho, deuxième épisode qui est passé samedi dernier sur M6, où il y a les deux frères qui discutent entre eux, et il y en a un qui dit à l'autre: j'hésitais à appeler maman parce qu'on a le même timbre de voix. Oui, je sais qu'on a le même timbre de voix. Au secours.
Voilà, donc c'est, il y a quelques détails qui parasitent un peu le film, mais peut-être que c'était pas voulu dans la VO, encore une fois, donc je suis assez sceptique sur ce côté-là. Quand même, bon, c'est tout bon film de Cronenberg, de genre ultra codifié, donc il faut le voir plusieurs fois. Je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui soient déroutés, parce que en même temps c'est un film de mafieux, mais qui utilise à la fois certains codes de ce genre de film et d'autres pas du tout. Donc tu sais pas trop sur quel pied danser, tu es complètement dérouté par ce film, et à la fin du film, il y a certains plans finaux comme dans History of Violence qui sont très lourds de sens, et je dis il y a matière à réfléchir dessus, matière à gratter. C'est ça qui est toujours intéressant chez Cronenberg. Donc Les Promesses de l'Ombre, qui est toujours à l'affiche, qui est sorti depuis un petit moment déjà, mais qui est toujours là, avec Viggo Mortensen, époustouflant vraiment, c'est la méga claque. Vincent Cassel et Naomi Watts, toujours impeccable. Nouveau film de Cronenberg.
Disponible uniquement en VF en ville?
Je crois, mais je suis pas sûr.
h 03 au top. Top. C'est du sport.
Oui.
Bah oui, c'est à toi.
Ok. Quand on parle de sport, on parle de foot.
Ouais.
Avec le numéro 50. Alors c'est marrant, hein, c'est ça tombe pile poil le même mois que le numéro 50 qui va sortir de Comic Box. C'est marrant, hein. Bon bah c'est comme ça. Et que c'est un numéro double, donc ça veut dire qu'il y a vachement plus de pages. Coûte un peu plus cher, hein. Bon bah pas beaucoup, hein, 3,50, c'est pas beaucoup, hein, par rapport à 2,90 d'habitude. Et c'est un spécial Maradona. Il n'y en a que pour Maradona. Avec de nombreuses photos. Alors moi, ce que je regrette d'emblée,
et des publicités de l'Office du Tourisme de Colombie.
Non, c'est la photo de
couverture.
De la couverture. C'est une photo qui est déjà connue, hein, avec les savates et tout, quoi. Et ils auraient pu en prendre une autre, je trouve, quoi. Mais sinon, bon, au niveau photo, c'est terrible. Au niveau texte, c'est pareil. Avec plein de gens qui parlent de Maradona, bien sûr. Il y a quelques interviews de lui, hein, mais qui ont été reprises il y a pas mal de temps, celle qu'il a donnée quand il jouait à Séville, tu sais, quand il revenait de sa suspension, quoi. Il a été suspendu 2 ans pour la coke au sortir de Naples, et donc il revenait sur le terrain et tout, quoi. Et puis bon, il avait donné une grosse interview à cette occasion là il y en a d'autres, et beaucoup de gens qui parlent de lui, donc dont ceux qui ont joué avec lui, ceux qui ont joué contre lui. Alors c'est marrant parce qu'il y a un article avec Argentine-Angleterre 86, le but du siècle, vu par ses victimes.
Ah oui,
où ils sont allés interviewer les mecs qui l'a passé en revue, tu sais, pour marquer
les poteaux d'entraînement, quoi.
Ouais, c'est ça, les poteaux d'entraînement, pour leur demander ce que représentait Maradona pour eux. Alors il y a également Ben Johnson, il y a ouais, si. Il y a également du côté des joueurs, des entraîneurs, Bilardo, César Menotti, Jorge Valdano, Jorge Brugiaga, et bien sûr il y a Manu Chao, ça il fallait, hein, de toute façon. Emir Kusturica. également, et beaucoup d'autres, mais c'est surtout bon, par la pléiade de photos très intéressantes. Alors là, j'en ai sélectionné quelques. Bon, c'est con pour vous, les auditeurs, auditrices. Surtout pour la première, les auditrices, là, elles sont un petit peu.
Ouais, donc on parlait de Hammam où Migo est à poil.
Alors, bon, il y en a d'autres, quoi. Là, c'est sa prime jeunesse. Alors, c'est bien parce qu'en plus, dans le SoFoot, c'est expliquer les différents articles de manière chronologique, hein, c'est-à-dire que là c'est sa période argentine, bien sûr, tu as reconnu. Ensuite il y a sa période napolitaine.
Oh là,
il
est pas là, quel corps.
Attention là, hein, attention là. Hein. Bon, ma femme disait c'est dommage qu'il soit si petit, quoi, mais bon. Okay. Là ça commence à se gâter un peu, on va dire. Ça se gâte. Bon, enfin bon, ça montre que bon bah il a bien gagné sa vie. Et il y a une photo qui vaut son pesant de cacahuètes quand même. C'est la photo à Lourdes avec un certain Philippe Douste-Blaise, tout jeune et tout beau. Et d'ailleurs la légende de la photo dit avec des lunettes, une casquette Uno, un gilet, le tout à Lourdes et aux côtés de Douste, comment flinguer le mythe en une seule photo. Et juste au-dessus, t'as les photos de Diego qui se grime lors de carnaval en Ben Laden, n'est-ce pas? Enfin, n'importe quoi. Tout ça dans cet excellent numéro de SoFoot, donc paru depuis aujourd'hui. Et là, j'ai commencé à foutre le bordel, donc je vais pas retrouver mes feuilles. Si, les voilà. Avec un petit peu de télé. Alors là, il y a vraiment rien de neuf. Il n'y a pas de. Si, il y a une seule série complètement inédite à l'affiche. Cette semaine, c'est une série anglaise qui sera diffusée sur Canal+ jeudi prochain à partir de 20h15, c'est-à-dire après 24, hein, qui s'appelle Skins et qui a été diffusée par Channel 4. Il ne s'agit pas d'une série sur les hooligans ou sur les gens qui écoutent que de la musique reggae et de la musique oi. Non, pas du tout. Il s'agit plutôt bien des différentes peaux, des différentes mues qui peuvent, en parlant de façon très imagée, qui se produisent durant l'adolescence de nos chers bambins. Et tout ça raconté de manière très crue, très hard, très réaliste, on va dire. C'est une série qui est passée sur la chaîne anglaise Channel 4, hein, qui n'est pas réputée pour ses choix au niveau du bon goût, qui aime bien faire dans le bien trash, dans le bien heavy. Hein. Ils n'ont pas la retenue, car encore un petit peu la BBC, tu vois. Quoi,
c'est pourtant une chaîne privée avec une mission de service public.
Mais
ils y vont à sec, voilà.
Ils y vont quand même pas mal, quoi, par certains programmes, dont Skins, mais qui a eu un excellent retour quand même, bien que le caractère de la série et le caractère des différents épisodes soit vraiment très très. On va dire enjoué, quoi. Ce qui est aussi intéressant dans la série, c'est que chaque épisode change, car chaque épisode se raconte les aventures d'une bonne dizaine d'adolescentes, et chaque épisode est l'histoire de ces jeunes racontée d'un point de vue différent du point de vue d'un des protagonistes, donc le protagoniste change à chaque épisode, donc c'est ça aussi l'un des caractères un petit peu spéciaux qui en fait une série tout à fait regardable. C'est à partir de jeudi prochain sur Canal+, à partir de 22h15, vu le caractère assez osé, on va dire, quand même, de certaines scènes de Skins. Il y a également une deuxième série inédite à l'affiche sur TF1 demain à 15h05, hein, dans la série des séries du dimanche après-midi sur TF1, oh là coincé là. Entre Las Vegas et New York, une unité spéciale.
Bon, ça pourrait être pire.
Un petit peu après.
Après Monk ?
Non, mais ça remplace Monk, justement.
Ah, d'accord.
Et ça remplace Monk parce que c'est une série qui est un petit peu dans le même style que Monk, à savoir une série humoristique policière. Ça s'appelle Enquêteur malgré lui, et ça raconte l'histoire de Sean Spencer, hein, qui fait croire en fait aux gens qu'il est médium, mais qui possède en fait juste un sens d'observation qui est vraiment hors norme quand même.
D'accord.
Tu vois, et il est secondé par son pote Gus, hein, qui lui un petit peu le buddy raisonnable, enfin un peu peureux comme ça, qui essaye toujours de remettre dans le droit chemin, qui est interprété par Dooley Hill. Dooley Hill, c'est le black qu'on a vu depuis le début de West Wing. Ça, c'est le black jeune qui à un moment sort avec la fille de Martin Sheen.
Oui, l'assistant du président.
Voilà, l'assistant. Et il y a également son père, le père à Sean Spencer, qui est flic modèle, mais efficace, difficile, straight dans le droit chemin et tout, quoi. Et Sean Spencer, donc, va être pris à partie par les forces de l'ordre parce qu'on croit qu'il a commis un crime qu'il n'a pas commis, et donc il va les persuader de mettre d'utiliser ses services parce que c'est lui plus à même de trouver qui est le coupable et quels vont être les coupables dans les autres épisodes. Alors Corbin Bernsen interprète le rôle du père flic, donc ça peut être intéressant, et James Rhodey interprète Sean Spencer. James Rhodey qui fait partie de la nouvelle vague des comiques américains très jeunes, mais qui ont déjà un petit peu le vent en poupe, hein, peut-être les futurs Ben Stiller, on sait pas. Enfin, on attend ça avec impatience. C'est diffusé, bon, on va dire un petit peu n'importe comment, dans la tranche dominicale de programme de TF1 à 15h05 demain, donc à partir de 15h05 donc sur TF1, le premier épisode de cette série, une série qui a été diffusée aux États-Unis par USA Networks. Sinon, au niveau nouveauté, c'est pas vraiment une nouveauté, mais c'est une saison inédite, c'est la saison 3 de Red Genesis qui est diffusée à partir de lundi soir 20h45 sur Syfy. Syfy qui va fêter cette semaine à travers quelques événements, enfin quelques films qui sont pas trop mal regardables, déjà vus, mais enfin bon, regardables.
Les 30 ans de Star Wars,
Non, les 2 ans de la chaîne.
Ah merde.
Ça fait 2 ans qu'il y a Syfy, mais version française. Sinon, bon, je pense que vous étiez devant votre poste jeudi dernier.
Oui, saison 3.
La saison 6 des Sopranos.
Ah merde.
Tout faux. C'est
Thomas, t'as pas le câble.
C'est pas Prison Break, merde.
En Prison Break,
t'as
c'est une bouse.
Ouais. T'as regardé.
Mais c'est une bouse cette sur 3ème saison.
Ça fait bizarre de voir l'ex-maton enrobé de plastique aller laver la merde dans les toilettes comme un chien.
Ouais, enfin bon, ça reste l'edge, hein, de toute façon. J'ai juste regardé le temps de la pub, quoi, des Sopranos, mais bon. Ça reste léger. Du côté des Sopranos, eh bien, ça fait fort. Peut-être un petit peu trop fort. Je trouve que la diffusion de 3 épisodes à la suite, tu vois, quoi, c'est un peu lourdingue quand même, quoi. Ça le fait pas, même quand c'est une série aussi remarquable que les Sopranos. Même quand c'est du haut de gamme, tu vois, bah, c'est un petit peu dur, quoi, de se taper 3 épisodes d'affilée comme ça, quoi. Surtout avec le 3ème en fin de soirée à Perpète les Oies. Ce sera le cas encore jeudi prochain avec le 16ème, le 17ème et le 18ème épisode de cette saison 6. Saison qui en compte 21, avec dans le premier de ces 3 épisodes diffusés jeudi prochain à partir de 20h45, le vice du jeu, l'apparition de la fille de Frankie, Nancy Sinatra. Dans le vice du jeu, l'épisode suivant, ça s'appelle Sois un homme, mon fils, et dans l'épisode 18, il s'appelle Bon débarras, où il y en a les deux, ils ont un accident de bagnole, enfin je vous en dirai pas plus. Dans New York Unité Spéciale, eh bien, on arrive enfin à la saison 7 sur TF1, ça fait plaisir, alors que là-bas ils en sont déjà à la saison 8, et puis je crois que la 9 est en train de se mettre en boîte. Par contre, l'épisode est excellent, c'est le premier de la saison 7, le premier de cette série qui en compte 22, donc de cette saison qui en compte 22. Et il s'appelle Les Vieux Démons, avec Robert Patrick, le T-1000, dans le rôle principal, donc celui du méchant. Et là, ça vaut le coup, parce que bon, vraiment, il est très très bon. C'est ce soir à partir de 23h10, enfin c'est l'horaire donné par TF1 et par les différents journaux, mais avec Arthur en première partie. Ça déborde toujours. Et le tunnel de pub, j'en parle même pas. Le deuxième épisode est aussi assez intéressant. Il a déjà été diffusé, mais il met en vedette dans le principal rôle de guest star Marley Matlin, qui est pas une inconnue parce qu'elle a déjà tourné dans d'autres séries, dont à la Maison Blanche, dont on parlait avant. C'était elle jouait le rôle d'une lobbyiste sourde et muette, je sais pas si tu te rappelles, qui s'exprime avec des trucs et tout. Et elle a également tourné, on l'a également vu dans un épisode de CSI, je crois Manhattan, il y a pas plus tard qu'il y a la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, où également elle jouait le rôle d'une sourde muette qu'elle est vraiment dans la vie. Et donc
elle est assez militante là-dessus auprès d'Hollywood, et c'est pour ça qu'on la voit beaucoup dans pas mal de films.
Et là on la verra donc ce soir dans un épisode de New York Unité Spéciale de la saison 6 qui s'appelle La Vie en Morceaux. Demain soir, Shark, bien sûr. Alors là, on en est déjà au 17ème et au 18ème épisode. Putain, ça passe trop vite. Mais là, ça commence à devenir un peu plus intéressant au vu des 2 épisodes de dimanche dernier. Pourquoi ? Parce que au départ, depuis le début de la série, on assiste donc au retournement de veste de la part d'un avocat de la défense qui devient l'avocat du du peuple, c'est comme ça qu'il s'appelle aux États-Unis, c'est comme ça qu'il parle, nous le peuple, quand c'est le procureur, il parle au nom du peuple américain toujours.
La partie civile.
La partie civile, voilà. C'est ça quoi. Et jusqu'à présent, les épisodes s'enchaînaient, résolution de crime, James Woods, le procureur Shark, est du côté des bons donc pour faire régner la justice et tout. Mais il s'avère que dans les deux épisodes de dimanche dernier, eh bien, il se fait embringuer par un vieux pote d'enfance à lui, joué par Gary Cole, encore impérial et magnifique, où il s'avère que il est pas si net que ça quand même, et qu'il est pas tellement entièrement du côté de la justice. Quand on peut s'arranger entre nous, ça peut aussi bien le faire, tu vois quoi. Et c'est là qu'il commence à avoir quelques petits emmerdes, mais enfin bon, ça donne un petit coup de neuf à la série, ça donne un petit coup de neuf parce que bon, on commençait à s'enfermer un petit peu, à s'endormir un petit peu dans un petit rythme, tu vois, d'épisodes Who Done It en 52 minutes qui commençait à être un petit peu lassant, on va dire. Et là, ça redonne un petit coup de peps. On espère que ça va continuer donc avec les deux épisodes de demain soir. Retour de flamme, le numéro 17, et La Dernière Chance, le numéro 18. Hein, sinon, quand même, mention spéciale à James Woods. Magnifique, excellent. De toute façon, il n'y a pas de problème. Daniel Penabacar est pas mal du tout dans le rôle de sa fille. Il y a également, bien sûr, Jerry Ryan, mais elle est plus habillée que dans Enterprise. Bon, là, ok, tant pis. Mais quoique, on ne désespère pas peut-être d'avoir peut-être une aventure entre James Woods et Jerry Ryan d'ici la fin de la saison. Et je parlais de Gary Cole avant, c'est marrant parce que rediffusion pour la troisième fois de Wanted, mais là sur Paris Première, juste après Shark, donc demain soir à partir de 22h25, avec l'épisode pilote, le seul où il n'y a pas Luther Gassen dedans. C'est pas compliqué. Alors, sinon lundi, l'excellente série diffusée sur Canal Jimmy, Dirt, initié par Courtney Cox et David Arquette, qui sont producteurs exécutifs. C'est excellent, c'est vraiment très très bon. Le ton est très très glauque, on croit que c'est un petit peu comme ça, Payette et tout, le magazine à scandale, Hollywood et tout. Tu dis ouais, c'est Payette. Non, non, pas du tout, le ton est vraiment très glauque. Yann Arc qui joue le rôle du paparazzi, il vit avec un fantôme qui est la nana vedette qui a fait une overdose de coke dans le premier épisode et tout. Depuis qu'il vit avec, il l'engrosse, on vous la voit carrément accoucher. Enfin, c'est vraiment très glauque quoi comme série, c'est très très jouissif à regarder. C'est brillamment interprété, on peut dire. Courtney Cox, elle a vraiment bien réussi son coup. Elle est très très bonne. Yann Arc, bon, c'est pas la peine de me rajouter, de toute façon il est excellent, les autres sont pas dégueulasses non plus, de toute façon regardez à tout prix. Donc c'est sur Canal Jimmy lundi prochain à 20h45, l'épisode 5 You Don't Know Jack et l'épisode 6 The Secret Life of Altar Girls. Et là je vous ai fait une petite liste, c'est surtout parce que bon, je me suis dit je vais m'y prendre un petit peu à l'avance parce que je vais avoir plein d'autres choses à faire, peut-être que j'aurai pas le temps de faire un truc correct. Là je me suis dit tiens, je vais faire une compile des films baston de la semaine. Et en fait, il y en a pas tant que ça, figure-toi quoi. Parce que si ça commence bien, ça termine un petit peu en pot de cacahuète, on va dire, avec ce soir nous avons un Aller pour l'enfer de Shin Soo Hyun. Alors déjà, le nom, ça dit quelque chose et tout, quand même. Pourtant, c'est un 2003 avec Steven Seagal et Byron Mann.
Oh non!
Diffusé sur Ciné Cinéma Frisson ce soir à 20h45. On pourra lui préférer, mais là, on peut regarder les deux parce que sur AB1 à 22h15, il y a Interceptor Force de Philip Roth de 1990 avec Oliver Gruner, Brad Dourif et Ernie Hudson. Ça va déménager, c'est à 22h15 ce soir sur AB1. Ou alors, il y a également Mission Air Force de Rick Jacobson en 1997 avec Michael Dudikoff. J'ai quand même réussi à trouver un Michael Dudikoff avec Frédéric Forrest. C'est sur TF6 à 23h30. Bon, demain, bien sûr, il y a le baiser mortel du dragon sur TF1, mais enfin, celui-là,
pas terrible, mais
ouais, bon,
mais pas bien non plus.
Mais il vaut mieux le regarder en DVD, comme ça tu peux regarder au ralenti certaines scènes, c'est plus cool, quoi.
Ah, moi, j'ai réussi à m'endormir devant ce film.
Et sinon, demain, il y a Police Story 2 de Jackie Chan.
Oui, très bien.
Maggie Chung,
excellent.
Bill Tung, Ken Loh, sur Ciné Cinéma Famise à 20h45. Ou un petit Western Spaghetti, qui est pas mal du tout. Tuez-les tous et revenez seul, de Enzo Castellari de 68 avec Chuck Connors. Avec Chuck Connors, mon gars.
Je sais pas. Chuck Connors. Il a joué dans quoi?
L'inspecteur, là. Laisse tomber. Frank Wolf, c'est diffusé sur Direct 8 demain soir à 20h35. Lundi, alors, c'est le retour de JCVD avec Double Impact, allez, comme la semaine dernière.
Très bien.
Sur RTL 9 à 20h45, avec Geoffrey Lewis et Bolo Young, c'est l'histoire des deux jumeaux, là. Il y a, alors là, celui-là, je le connaissais pas, figure-toi, et à mon avis, ça va être une belle bouse. Car il s'agit d'un téléfilm qui s'appelle L'affaire Van Aken de Michael Oblowitz de 2003 avec Steven Seagal. Oh, mon gars, TMC, c'est sur TMC demain soir à 20h40. Non, lundi à 20h45. Lundi, il y a également Kickboxer sur la chaîne Action.
Toujours
à 20h40.
Bien. Vainqueur, le palmier.
Du duo Dissa Worse avec JCVD. Et il y a un peu plus tard sur AB1 à 22h40, Final Impact. Alors là, c'est.
Avec un nom pareil, la proportion d'AB1 de passer des téléfilms, je m'inquiète.
Oui. Un film du duo Joseph Mery, Stephen Smoke, Joseph Mery qui n'est plus avec Richard Pépin. Je sais pas si t'as remarqué, hein. Il a trouvé un autre là, quoi. Et avec Michael Worth et Lorenzo Lamas. Celui-là il est moins 12 carrément, hein, sur AB1, donc lundi prochain 22h40. Et mardi, un seul film d'action baston, Fortress de Stuart Gordon. Sur la chaîne Action à 20h40. Ah, mercredi, ça redevient bien avec un petit peu de JCVD, coup pour coup.
Ouais.
Déjà programmé la semaine dernière, le film de prison de Deran Sarafian avec Cynthia Gibb sur RTL9 à 20h45. Et on peut s'en faire un deuxième dans la foulée mercredi prochain avec le Double Impact qui est rediffusé sur la chaîne Action à 22h35.
Baston.
Jeudi, le film qui fait hurler tout le monde, et c'est normal, Highlander 2,
ouais.
AB1,
non,
je l'avais dit, ça fait hurler tout le monde, sur AB1,
il est temps pour lui que cela cesse.
À 20h45, et ça se termine avec vendredi une soirée Western Spaghetti sur la chaîne Action, deux films de Michele Lupo avec Giuliano Gemma. Le premier, c'est à 21h, Méfie-toi Ben, Charlie veut ta peau.
C'est pas moi qui ai écrit le titre.
En 72, avec outre Julien Gemma, il y a également George Eastman. Et à 22h45, alors le premier, Méfie-toi Ben, Charlie veut ta peau, est de 72, et le deuxième est de 66, Arizona Colt, avec Fernando Sancho et Giuliano Gemma.
J'en reviens pas, du sport a fait très court, moins de 20 minutes. Ce qui rentrerait presque dans les annales, là. Et sans forcer, en plus.
Il y a deux pages numéro 2.
Ça va ? Ok ? Bon, on peut tasser les feuilles, là, professionnellement ?
T'as les films baston, 1 et 2, et t'as le reste, 1 et 2.
D'accord, ok, merci. Donc, on peut préparer, s'il vous plaît ? Ok, merci. Thomas, peux-tu s'il te plaît faire le résumé pour tous ceux qui ont pris l'émission en cours de route ?
Oui, si vous avez loupé le début, vous avez manqué. Donc, et entre autres, vous avez loupé Chris qui était notre invité pour parler de Dofus, l'artbook session 3. On a eu un orthographe assez particulier de Xav pour prononcer le mot forward. On a eu un retour sur le Toulouse Game Show, des futurs Kamehameha en live, du chat orange, il y a eu 48 massacres du nom Kazuo Koike par Xavier, du Aragorn à poil, on a eu du SoFoot maradonesque, le Michael Dudikoff, le Steven Seagal, le Lorenzo Lamas et deux Jean-Claude Van Damme de la semaine.
Il y a même plus marqué forward sur les appareils là.
Ah non, c'est deux flèches maintenant. Le public s'y est fait maintenant.
C'est effarant. C'est effarant. Nom d'un combat sur la neige par une nuit sans lune et complètement à poil avec un katana damasquiné. Ils ont manqué tout ça. Heureusement, ils peuvent réécouter l'intégralité de cette émission avec les chroniques écrites, mais aussi fouiller dans nos archives, laisser les commentaires, poser vos questions, n'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web. Pour cela, vous ouvrez votre Internet Firefox Safari Navigatoire. Et vous tapez dans la barre d'adresse supplément week-end, sans accent ni tiré, donc supplémentweekend.tk, TK, voilà, supplément week-end, sans accent ni tiré, et là-dessus, c'est génial, c'est super, vous pouvez le faire. Ah, parce que je me suis lompé, voilà. Vous allez sur supplémentweekend.tk.
Oui. oui, vous avez
je suis
bien
plus
entendu.
En rythme.
Supplémentweekend.tk, vous avez bien
voilà.
entendu.
Voilà, c'est super. Mais en attendant, que va-t-il se passer de suite? Voilà, là c'est mieux. À 15h, c'est Zarma pareil, c'est du reggae avec Poupa Christopher. 17h, ça c'est de la bonne viande. C'est un magazine culinaire avec du rugby, du heavy metal et de la scie circulaire. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. 18h, Big Bang, c'est du rock. 19h, Happy Hour, c'est petits apéros avec les petites olives et la petite viande tranchée très fine. 20h, la Cétéro Expérience, c'est de l'électro complètement barrage au beau schnock. 21h39, Love, Two Step. Et à 23h, séquence live avec le potager. Mais de suite, ça c'est du sport. Je vous laisse avec lui. Vous écoutez FMR sur 89,1 MHz. Nous sommes en direct de midi à 5h du matin et on continue sur www.radio-fmr.net. Et le supplément week-end revient samedi prochain.
Avec du Nerds et du Beowulf.
Grand Dieu, ça va être fort. Nettoyez vos lecteurs DVD, ils vont voir passer des crasses avant Noël.